Radio Vivant, pour une psychanalyse populaire,
l'émission de Guylaine Dubois
et Luca Bielli,
produite et réalisée par
FM+.
Bienvenue sur Radio Divan. Bonjour Guylaine, vous êtes psychanalyste à 7 et vous proposez des consultations à 7. On peut vous trouver sur votre site internet Le Divan c'est toi, votre numéro sur internet.
Merci pour cette présentation Lucas. Luca Bielli, vous aussi psychanalyste à Montpellier et idem, vous consultez à Montpellier et trouvable sur internet.
Et aujourd'hui nous recevons Yann. Alors, Yann, vous travaillez à la radio, vous enregistrez de nombreuses émissions. Vos qualités d'écoute, de présence à l'autre, votre disponibilité généreuse et votre intérêt pour le psychisme nous ont conduit, Guylaine et moi, à vous inviter dans le cadre de Radio Divan. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Yann.
Bonjour Yann.
Bonjour.
On vous reçoit avec plaisir.
Alors, merci d'avoir accepté l'invitation, Yann. D'habitude, on a le plaisir de vous avoir dans nos oreilles et de vous voir derrière cette grande verre en plexiglas. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous.
Oui.
Alors, première question. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté du miroir?
Ça fait bizarre, ouais. Bon, c'est la deuxième fois. Donc, un tout petit peu habitué, mais non, c'est... J'aime bien.
Alors... On est là pour parler de votre histoire, on est là pour parler de vous, on peut parler des choses merveilleuses que vous avez eues dans votre vie ou des moments peut-être un peu plus difficiles. Vous avez quel âge aujourd'hui, Yann ?
J'ai 39 ans.
39 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous étiez plus jeune, qu'on fasse un petit peu le parcours de votre vie ?
Plus jeune, j'étais réservé, timide.
Ça a beaucoup changé ?
Non, pas trop. Ça a un petit peu évolué.
Comment ça a évolué alors ?
Bon, en tout cas, je suis moins timide maintenant. J'ai beaucoup plus de facilité. Et puis, c'est aussi le fait d'être ici, travailler ici à la radio et de croiser du monde qui m'aide à surmonter la timidité. Mais très jeune, ouais, j'étais très timide et j'étais souvent dans mon coin. Quoi. Voilà.
Vous avez un souvenir particulier à nous raconter qui vous revient comme ça en mémoire?
Sur
par exemple à l'école ou à la maison?
Ouais, à l'école j'en ai plein. Hein. Parce que généralement les enfants timides, ouais, de ce que je m'aperçois maintenant, ouais, j'étais beaucoup mis à l'écart et moqué. Donc autant pour une fille, ça passait plus facilement qu'elle soit timide, mais pour les garçons, c'était c'est genre curieux. C'est comme ça que je le vois maintenant, ce que j'ai vécu, ouais.
Et oui, et souvent en plus, c'est un comportement qui permet aux autres de se valoriser en mettant un peu l'autre au fond, pour prendre un peu la lumière.
Ouais, ouais aussi, ouais. Donc, oui, c'est vrai que. Vous marchez plus facilement sur les autres, hein. Ceux qui sont plus réservés, ouais, ça peut.
Et est-ce que vous êtes senti, du coup, malgré vous, enfermé dans ce rôle-là? Est-ce que ça a pu exacerber un peu plus ce sentiment de vouloir être seul?
Ça m'a beaucoup blessé, oui, dans certaines situations. Ouais. Surtout à l'école, que les adultes suivaient les autres enfants qui me raillaient. Donc c'était très, très blessant, quoi.
Ouais, c'est-à-dire, ouais, il n'y avait pas de soutien finalement.
Non, c'est ça. Adultes. C'est ça, ouais. Soutien que j'attendais, mais ouais. Ça m'a beaucoup blessé, oui.
Et ces blessures, est-ce qu'elles ont amené à un événement, par exemple, qui aurait été très difficile pour vous?
En classe ou...
Par la suite de votre parcours?
Alors, il n'y a pas eu que j'allais dire problème, c'est pas forcément un problème d'être timide et réservé, mais il y a eu d'autres choses qui ont fait que oui, j'étais amené à en psychiatrie d'ailleurs. Voilà. Après de mauvaises rencontres, là où je suis né, ouais. Dans les villes où je suis né.
Vous aviez quel âge ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
J'avais 7-8 ans, par là, à peu près, de mémoire. Malheureusement, j'avais, dans cette petite ville, qui est quand même très jolie, Tulle.
Préfecture,
Ouais, préfecture de Corrèze. J'ai croisé des gens très, très négatifs. Mon prof de piano, par exemple.
Encore un adulte ?
Oui. Ouais. J'ai fait le conservatoire de musique. J'y suis rentré assez jeune, enfant. Mon prof de piano qui m'a touché sexuellement. Et un voisin qui vivait voilà, dans un quartier de Tulle. Qui, pareil... qui m'a fait subir des attouchements, entre autres, d'autres choses. Quoi.
Est-ce que ces personnes-là ont été punies par plus
non,
tard ou
non, non.
Vous n'avez jamais porté plainte ou...
Non. Alors, j'y ai beaucoup pensé hein, en grandissant, mais de toute façon, maintenant, c'est prescrit. Ça fait plus de 20 ans, donc voilà.
Et dans votre famille ou parmi vos amis, ils étaient, comment dire, informés, mis au courant ou...
Alors, ils ont été au courant assez tard. Et je pense qu'il n'y a que ma mère qui sait vraiment ce qui s'est passé. Et encore, je n'ai pas tout dit. Mmh. Je n'ai pas tout dit parce que j'ai bien vu que ça l'affectait. J'avais pas envie de qu'elle se sente responsable en fait.
Et donc là, c'est au-delà des adultes qui ne vous ont pas porté secours à l'école, au-delà de ceux qui ont eu des actes atroces et destructeurs à votre égard. Est-ce qu'il y a eu des à ce moment-là, ou au fil de votre vie par la suite, des adultes qui au contraire ont pu réparer d'une certaine manière ou vous aider à continuer?
Alors ça, j'ai trouvé ça, mais en psychiatrie. C'est ce que je suis parti de Tulle à l'âge de 13 ans. Mes parents ont été mutés sur Montpellier. Et je devais commencer le lycée Joffre. Voilà. Et ça s'est arrêté très vite parce que... mon état de santé n'était plus bon du tout. Voilà.
Et vous mettez aujourd'hui en lien votre état de santé à l'entrée du lycée, en lien avec les...
Oui, les et puis ça a démarré aussi un tout petit peu plus tôt, fin collège, où je commençais vraiment à plus parler à personne...
Ouais, vous vous refermiez.
Voilà, c'est ça. Je mangeais très peu. J'étais devenu très maigre. Ouais. Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et je m'écartais. Je restais tout seul tout le temps. Je parlais plus à personne, quoi. Mmh. Et en arrivant ici, eh bien, j'ai fini mais en psychiatrie.
Ouais.
Où j'ai pu rencontrer des adultes infirmiers qui m'ont beaucoup soutenu.
Ouais. C'est un passage plutôt bénéfique pour vous, cette période-là. Vous aviez quel âge quand vous êtes entré ?
J'avais au début de mes 14 ans, ouais. À peu près. Ouais. J'y suis resté pas mal de temps, en hospitalisation complète d'abord, et ensuite, on va dire, à temps partiel. Mais oui, mais c'est là où j'ai passé mon adolescence, quoi.
Et à vous entendre, c'est plutôt un souvenir plutôt bon. Moyennement bon.
Moyennement bon, oui. J'en ai quand même des bons souvenirs puisque j'étais jeune. Il n'y avait pas que des gens de mon âge. C'était un petit peu varié au niveau de l'âge. Mais oui, j'ai passé des bons moments, des belles sorties, rando, vélo, voilà, pour aérer un peu l'esprit.
Ouais.
Des ateliers de dessin, de musique, voilà, pour essayer de soigner la personne autrement que par les médicaments, évidemment. Médicaments que je prends toujours et que je prendrai à vie.
D'accord. C'est un peu comme si votre vie était partagée entre deux chemins successifs sur lesquels vous deviez marcher en même temps, c'est ça? Il y a le côté de la vie de tous les jours et le côté, votre côté de vie intérieure personnelle qui rentre aussi en jeu. Et comment est-ce que vous avez justement fait pour appréhender un peu ce nouveau chemin de vie, quand vous êtes sorti peut-être des premières séances que vous avez eues là-bas?
Ça a été long, en tout cas. Ça a été très long. Parce que j'y suis quand même resté 6-7 ans, à peu près, quoi, en tout. Non, c'est à force d'essayer. Là, j'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment d'explication. Après, le traitement que j'ai me convient, en tout cas, apparemment. Et m'aide, surtout, à gérer la déprime, le stress.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui vous permettent de vous accrocher? Je ne sais pas si un de nos auditeurs, peut-être, ou une auditrice, passe par ce que vous avez vécu. Est-ce que vous auriez quelque chose auquel vous êtes accroché, qui pourrait peut-être aider?
Ma grande passion, déjà, donc la musique. Donc ouais, j'ai toujours écouté beaucoup de musique, j'en ai fait beaucoup depuis l'enfance.
Vous avez continué le piano, par exemple, ou pas?
J'ai décroché quand j'ai commencé à aller mal en troisième, donc vers 13 ans. Je n'arrivais plus à aller, ni même des fois en cours, ce qui semble banal. Je n'arrivais plus à rentrer dans le collège, tellement c'était dur. Et non, j'ai arrêté le conservatoire, mais j'ai continué à faire de la musique de mon côté. Voilà, ça, la musique m'a toujours.
Et continue.
Oui, oui, oui. Bah, oui.
Et vous avez un instrument ou
J'ai du piano, ouais.
Ouais. Toujours du piano, donc.
Oui.
Ouais, d'accord.
Toujours joué du piano.
Et pour nos auditeurs ne peuvent pas le voir, évidemment, ils n'entendent que nos voix, mais je vois, Yann, que vous avez un tatouage sur votre avant-bras droit.
Oui.
qu'est-ce qu'il représente, ce tatouage?
Alors, plusieurs choses. Alors, déjà, c'est Anubis. J'aime beaucoup la mythologie. J'aime beaucoup les crânes. Je ne vais pas dire j'aime la mort, mais non, j'aime beaucoup le... Voilà, ce style de dessin. En gros, oui. Mythologie et musique, certains très en rapport avec la musique et notamment des labels musicaux.
Mmh. D'accord, donc Anubis, c'est celui qui pèse l'âme de défunt, qui juge entre une plume et un cœur s'il est possible de passer à l'au-delà. Donc c'est très symbolique. Est-ce que quelque part ça peut aussi vous représenter dans le sens, est-ce que vous êtes à la fois vivant mais à la fois mort d'une certaine façon? Est-ce qu'une certaine chose est déjà dans l'au-delà? Est-ce qu'on pourrait l'envisager comme ça?
Je pense, oui. Pour moi, jusqu'à présent, j'ai pas pleinement vécu, en fait. Quelque chose est mort quand j'étais enfant. Je m'en rends compte, oui.
Mais il y a aussi dans Anubis toute la symbolique de la juste valeur, la juste récompense, à cœur léger. On donne, on pourrait dire le paradis chez nous, même si c'est une suite du voyage. Est-ce que d'un côté, quand on traverse tout ça, il y a, comme vous avez dit, une partie de vous n'est plus, certes, mais est-ce qu'on garde un point de vue quand même, est-ce qu'on y arrive en tout cas à avoir gardé une certaine pureté, alors peut-être dans la musique, peut-être dans ce qu'on aime, est-ce que les choses restent pures d'une certaine manière?
On a droit à un joker. Hein.
Joker. Difficile.
Alors, je vous propose pour y réfléchir d'écouter votre premier morceau musical.
Allez.
Rage Against the Machine, Mic Check.
Le morceau, ouais.
Le morceau.
Retour sur Radio Divan, en compagnie de Yann et de Guylaine Dubois.
Et de Lucas Bielli.
En musique, nous reprenons en musique. Et justement, ma prochaine question, est-ce qu'on pourrait explorer un peu plus avec vous cet univers musical, le vôtre?
Oui.
De quoi est-il composé?
Alors déjà, à la base de beaucoup de classiques, parce que j'en ai beaucoup mangé. En solfège, je faisais du chant choral aussi, ouais. Donc toute la base classique. Ouais. J'ai eu ma période métal, étant ado, donc en psychiatrie. Ouais. Et je me suis beaucoup plus élargi quand je suis rentré à, chez FM+.
Ah oui, ça a été
une
ouverture d'horizons musicaux.
Complètement. Oui.
D'accord. Par exemple, Rage Against the Machine, cet artiste-là, vous l'avez connu récemment?
Je l'ai connu ado, déjà.
Ado, déjà. D'accord. Mmh. Ouais. Et dans quelle catégorie de musique vous le mettez?
Dans métal.
Mais c'est du
métal. Hard rock, ouais, métal.
Et on est très loin du classique, en effet.
On est loin du classique.
Mais peut-être pas tant que ça.
Après, j'aime beaucoup de styles.
Après, on peut dire aussi que c'est un classique dans le domaine du métal.
Oui, aussi, oui.
Un domaine que Guylaine va bientôt explorer, je pense.
Continuons, cher Lucas. Alors, donc Yann, vous passez ces années-là de soins,
oui,
et de reconstruction dans cet hôpital psychiatrique. Vous en sortez à 20 ans. si j'ai bien compté, à peu près 20 ans. Et comment, voilà, comment vous abordez finalement la vraie réalité, le monde de la société avec, pas non protégé finalement.
Ça a été assez brutal quand même. Ouais. Parce que j'étais pas du tout habitué déjà à l'extérieur, à la foule. Et puis la foule, c'est aussi quelque chose qui m'a faisait peur, étant donné le diagnostic qu'on m'avait donné de névrose phobique.
Donc la foule, oui, c'était
la foule,
l'agoraphobie,
les lieux inconnus, les grands espaces aussi, oui. C'était vraiment un mélange de choses. Et oui, donc ça a été brutal, mais je suis tombé sur des bonnes personnes. À Radio FM+.
Je crois qu'on peut la citer Stéphane, peut-être.
Oui, surtout Stéphane à l'époque, déjà.
Ouais.
Et du coup, je suis arrivé chez FM+, parce qu'il y avait un service de réinsertion au travail à l'hôpital de la Colombière. Mmh. Je pense qu'il existe toujours, qui s'appelle l'Edith. Et c'est quelqu'un qui m'avait proposé un stage. Je pense qu'il connaissait le directeur de la radio de l'époque, Monsieur Pierre Zenz.
Oui.
Du coup, voilà, j'ai fait un stage qui s'est éternisé parce que j'aimais beaucoup ça. J'étais au taquet.
Ouais. Ça, c'était un univers qui vous convenait.
Oui, parfaitement. Oui. Ouais. Et petit à petit, j'ai eu la chance d'être embauché un an ou un an et demi après de stage, et voire même de bénévolat, si je me rappelle. Bien.
Oui, vous disiez que finalement, la radio, c'était un endroit pour surmonter sa timidité. Vous pourriez en dire un peu plus par rapport à ça ?
Eh bien, parce que je suis obligé de parler aux gens. Ouais. Évidemment, pas qu'ici, même pour aller acheter quelque chose à manger, du tabac. Mais parler aux gens, oui, ça a été très dur au début, mais c'est devenu un acquis. Parce que j'ai encore des soucis ou du stress qui monte sans raison, mais c'est... C'est comme ça. La radio, je parle aux gens, j'essaye de... Je m'adapte.
Bon, en tout cas, de ce que j'ai entendu, de ce que vous avez dit, c'est que, Yann, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de recevoir aussi beaucoup, beaucoup d'ondes, quelque part, de bonnes ondes, que ce soit en termes de musique, en termes de connaissances, être dans un endroit où vous vous sentez bien, comme la radio, avec des bonnes rencontres, mais que vous avez encore un peu du mal à vous-même, donner de vous-même, de remplir l'espace. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes plus comme une antenne, finalement, mais qui reçoit pour l'instant, qui a un petit peu de mal à diffuser, hein, ce qui est un peu... paradoxal avec le fait de travailler à la radio. Mais est-ce que petit à petit, justement, de ce que vous avez dit, de faire les courses, d'acheter à manger ou simplement du tabac, au fil du temps, ça prend du temps, peut-être beaucoup plus de temps que chez certaines personnes, mais petit à petit, vous y arrivez par des petits gestes du quotidien.
Oui, c'est ça, oui. C'est tout à fait ça. Et après, vous voulez dire que je suis quelqu'un plutôt d'effacé, c'est ça, ou... Non.
Non, pas du tout. Non.
Non.
Alors ici, on parle beaucoup de psychanalyse. Est-ce que quand vous étiez dans cet univers psychiatrique, donc, il y avait une démarche de type analytique, comme on l'expose assez régulièrement dans Radio Divan ? C'est-à-dire, je comprends qu'il y avait beaucoup d'empathie de la part des infirmiers, par exemple, ou pas.
Oui, plus ou moins, ça dépend des gens. Après, j'ai beaucoup d'infirmiers très bien que j'ai rencontrés, en tout cas.
Ouais.
mais après, le suivi, c'était par un psy.
Ouais.
Après, je ne sais pas pour moi, mais ça ne m'a pas vraiment aidé, le psy.
Ouais. C'est... Qu'est-ce qui vous a aidé, alors, justement?
Plus tard, j'ai fait une thérapie qui s'appelle l'EMDR.
Ah oui.
Avec le mouvement oculaire. Et ça a beaucoup plus marché, en fait.
Ouais, ouais.
J'ai pu faire beaucoup de progrès, en tout cas, je m'en rends compte aujourd'hui. Ouais, c'est plutôt ça qui a marché pour moi, que parler à quelqu'un comme ça, quoi.
Donc, si je pouvais résumer, d'une part, vous avez eu certains infirmiers qui ont pris soin de vous, quelque part, en vous protégeant, en vous donnant d'une certaine façon de la bienveillance, et j'irais même jusqu'à employer le mot de l'amour, hein, parce que c'en est de protéger quelque chose de fragile en donnant de bonnes intentions. De l'autre part, peut-être que votre rapport à ce... C'était un psychiatre, c'est ça ?
Oui.
Qui vous a reçu, oui. C'est... On est plus dans une démarche de stabilisation, peut-être, en vous donnant des médicaments. Est-ce que tout va bien ? On reste comme
oui,
ça ?
Oui, voilà.
On
ne
va pas trop non plus toucher les cordes sensibles. Et le MDR vous a fait un soulagement, comme laisser une partie de son baluchon sur la route pour être plus léger, pour avancer.
Alors, je ne pense pas que j'ai tout réglé avec ça non plus. Mais en tout cas, il y a eu... Il y a eu des bons côtés, ouais.
Alors, quand vous dites tout réglé, ce serait quoi d'avoir tout réglé ?
D'être quelqu'un de normal, entre guillemets.
Ah oui.
De pouvoir... parce que je suis quelqu'un qui sort très peu, qui a besoin de faire un planning ou de prévoir les choses pour anticiper le stress ou le... Voilà. Des situations qui pourraient arriver et dont je n'aurai pas de contrôle, en fait, où je me sentirai en danger.
Oui, donc le fait de planifier, ça amortit cette sensation d'inconnu, justement.
C'est ça. Mais donc il faut que je me tienne vraiment à mon planning.
Oui.
Parce que la moindre chose peut être susceptible de stress et de difficultés. Et ce n'est pas évident d'expliquer ça à quelqu'un qui ne vit pas le truc, en fait.
Voilà. D'expliquer pour que... Pourquoi vous devriez lui expliquer, au fond ?
Parce que des fois, les gens aimeraient bien que je vienne avec eux.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est... Ça peut décevoir.
Ouais.
Et moi aussi, ça me déçoit de ne pas pouvoir faire certaines choses comme ça, en claquant des doigts. Mais voilà, des fois j'y arrive, des fois non. C'est comme ça.
D'accord, donc c'est plus quand les choses sont spontanées, comme si je vous disais, allez Yann, on va au cinéma, ou allez Yann, tu viens, on va là. Mais si c'est des choses planifiées, vous avez le temps, vous, de vous préparer,
c'est
un peu plus simple.
C'est ça.
Je comprends maintenant. On a planifié l'émission. Hein.
Voilà.
Alors, on a vu, bien évidemment, votre enfance à Tulle et ce drame. Puis ensuite, votre adolescence à la Colombière. Aujourd'hui, Yann, vous êtes employé à la radio. Est-ce que vous avez d'autres perspectives ? Ou est-ce que finalement d'être là, ça comble vos projets professionnels ?
Pour l'instant, en tout cas, oui.
Ouais.
Tant que je pourrai être ici, oui, je suis heureux de rester, quoi. Après, la suite, je ne... Voilà.
Vous planifiez, mais pas forcément sur les 20 ans.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a d'autres domaines que vous souhaiteriez peut-être travailler ou approfondir ? On sait que vous êtes musicien, aussi, vous êtes là en régie.
Oui, alors j'en fais plus assez, malheureusement, et il faudrait que je reprenne ça, justement, me remettre à la création musicale.
Et vous avez déjà travaillé aussi autour d'un média vidéo, par exemple ? C'est quelque chose que vous avez déjà essayé ?
Non. que je me souvienne. Mmh. Déjà vidéo.
Oui.
Non, l'image non, le son oui.
Car nous aurons peut-être Yann derrière les prochaines vidéos, c'est en avant-première pour nos auditeurs et pour Yann lui-même.
Vous avez une fratrie autour de vous ou...
J'ai une sœur, ouais.
Vous avez une sœur avec laquelle vous êtes proche ou...
Plus ou moins, on va dire. Parce qu'on a été séparés à l'enfance. C'est son père qui a eu la garde, en fait, après un divorce. Donc, malheureusement, on n'a pas passé notre enfance ensemble complètement, quoi. Et je sens que, oui, ça crée un petit peu une cassure. Mais on s'aime beaucoup. Ouais. Pas pour autant qu'on s'aime, qu'on ouais. s'aime pas, quoi.
D'accord. Mais c'est encore le symbole fort d'un homme qui vient mettre une cassure entre un objet aimé, finalement.
Heureusement, oui.
Est-ce que le deuxième morceau musical est aussi du métal ?
Ah non.
High Control, High Society.
High Contrast.
Racontez-nous. High Contrast.
C'est Stéphane qui m'a fait découvrir ce style de drum and bass, musique électronique qui vient d'Angleterre. Mm-hmm. Et que j'ai tout de suite aimé. Un style qui regroupe toutes les influences musicales. On a le classique au reggae, pop, house.
Ouais. Voilà. Ouais, donc cette réunion de deux musiques avec toutes ces tendances-là vous convient?
J'aime beaucoup, oui. Mmh. J'aime beaucoup.
Bien. Alors, Luca Bielli?
Oui, drum and bass d'ailleurs. j'en profite pour saluer la boîte de nuit La Java à Paris qui diffuse énormément de drum and bass. Et tout de suite, nous allons écouter la musique de Yann.
Just like the tide again.
Ça me mettra à bord là.
De retour sur Radio Divan, toujours en présence de Guylaine Dubois et notre invité Yann. Nous venons d'écouter une musique de drum and bass qui me pousse à vous poser une question logique. Est-ce que vous aimez danser, Yann?
Non, pas du tout, non. Mais ça m'est arrivé, mais moi, c'est pas vraiment mon truc.
D'accord, ce n'est pas un exutoire pour vous.
La danse, non. Pas du tout, non.
Ouais.
Pour faire le lien avec ce que vous nous disiez tout à l'heure, justement, quand on vous propose de sortir le soir pour,
oui,
pour aller danser, ça vous est déjà arrivé d'aller dans une discothèque ou dans
Non, discothèque, non, jamais.
Trop de monde, trop de foule.
Alors, il y a ça, oui. Bon, après, il y a des styles musicaux que je n'aime pas du tout.
Par exemple
Tout ce qui est trop commercial, à mon goût. Et les boîtes, c'est souvent ça. Donc,
et en festival? Peut-être en plein air
En festival, Alors, j'ai pas fait des festivals, mais j'ai pu faire quelques concerts. J'ai dit quelques, mais c'est peut-être deux. deux ou trois.
Ça reste un bon moment?
Ça reste... Alors, peut-être pas le premier, où voilà, j'étais un peu trop en panique. Mais les autres, ouais, ça reste un bon moment.
Ouais. Ouais. Et donc justement, quand vous êtes comme ça en panique, vous préférez être accompagné?
Oui.
Ou oui.
Ça m'aide beaucoup, ouais, ouais, d'être accompagné. Ouais. C'est certain, oui.
Oui, mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on a ce genre de phobie, il nous faut déjà un objet contraphobique qui peut être un ami, qui nous accompagne, qui nous décharge déjà énormément. Et aussi, pour Yann, bah c'est comme partir à l'aventure, quoi. On peut angoisser pour se dire, je vais partir un mois au Brésil, et les personnes vont avoir besoin de tout organiser pour se rassurer. Oui, les gens qu'on dit normaux vont faire ça pour se rassurer. Mais imaginez que pour Yann, ne serait-ce qu'aller voir un concert, bah c'est comme partir un mois au Brésil. C'est à peu près ça, Yann.
Peut-être que le voyage fait partie aussi des projets.
J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien, c'est peut-être prévu avec mon cousin.
Loin?
Japon.
Ah ouais.
Mais bon, après, c'est le prix, quoi. C'est pas donné non plus. Mais j'aimerais beaucoup, ouais.
Et surtout la culture japonaise, il y a un cadre. Est-ce que vous pensez que ça ira? Il y a beaucoup de monde, mais peut-être que la philosophie des gens, moins agressive, plus respectueuse.
Alors, il y a surtout ça, oui. C'est pas du tout la même mentalité, je pense. Ou en tout cas, de ce que j'ai vu.
Alors, bien, en tout cas, pour terminer, je souhaiterais aussi que nos auditeurs ont une petite pensée pour Yann, en lui souhaitant de pouvoir réussir ce projet. Autant financièrement que psychiquement, de pouvoir s'évader au Japon.
Merci Yann d'avoir accepté cette invitation et d'avoir passé ce moment avec nous.
Mais de rien. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+.
Sur une musique originale de William Balfour,
à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.